RCF.
Bonjour à tous. Le mois dernier, mon invité, le docteur Duchère-Posa, médecin généraliste au centre Jouvence Nutrition à Messigny-Ventoux, nous a exposé quelques généralités concernant les troubles du comportement alimentaire et nous a présenté plus particulièrement ceux liés à l'anorexie mentale avec ses causes, ses symptômes, ses conséquences et ses traitements. Aujourd'hui, nous aborderons deux autres troubles considérés comme majeurs, la boulimie ainsi que l'hyperphagie. Docteur Duchère-Posa, pouvez-vous nous expliquer ce qui définit les troubles liés à la boulimie ?
Alors, il s'agit d'épisodes récurrents de prise alimentaire en grande quantité, dans un laps de temps relativement court, avec une sensation de perte de contrôle, et ensuite des techniques de compensation pour éliminer, on va dire, les calories ingérées. Il peut s'agir de vomissements provoqués par le patient juste après la prise alimentaire, ou bien de consommation de laxatifs en excès, ou bien encore de surinvestissement sportif avec des heures et des heures de sport à viser d'élimination des calories.
Quels sont les signes et les symptômes révélateurs qui doivent alerter l'entourage ?
Alors, il est difficile pour l'entourage de mettre en évidence ce trouble chez les proches. En effet, ces patients recourant à des techniques de compensation des prises alimentaires ont souvent un poids normal ou un petit peu bas. On a tendance à croire que les patients boulimiques sont en obésité ou en surpoids, c'est rarement le cas. Par contre, on peut observer parfois des variations de poids dans un certain delta, des prises ou des pertes de 4 à 5 kilos assez rapprochées. Et puis aussi une personne qui va manger très vite et en grande quantité au moment des repas et qui pour autant a un poids à peu près normal. C'est par exemple, on a tendance à dire « Oh bah tiens toi, tu manges beaucoup mais tu prends pas de poids », ça devrait alerter l'entourage.
Les comportements compensatoires dont vous venez de parler, tels que les vomissements, la prise de diurétiques ou d'autres médicaments qui ont la réputation de faire maigrir, entraînent-ils des séquelles sur la santé physique et psychique ?
Alors oui, surtout sur la santé physique, la prise de laxatifs ou de diurétiques peut créer des situations de déshydratation et donc des malaises. Et les pertes de potassium dans les vomissements et par les abus de laxatifs peuvent entraîner des risques cardiaques graves, de troubles du rythme, voire d'arrêt cardiaque. Au niveau psychique, les patients étant déjà dans une grande souffrance par rapport à l'estime d'eux-mêmes et l'image d'eux-mêmes, vont se sentir encore plus dégradés dans leur rapport à eux-mêmes quand ils vont constater qu'ils ont ce type de comportement.
La boulimie, comme l'anorexie, n'est qu'une conséquence d'une ou plusieurs causes. Pouvez-vous nous citer quelques-unes d'entre elles ?
Alors, comme nous l'avions évoqué la dernière fois, la boulimie, comme la plupart des troubles du comportement alimentaire, se développe sur trois étapes. Il y a tout d'abord un terrain prédisposant qui est lié au tempérament de la personne, à ses fragilités psychologiques individuelles. Sur ce terrain va survenir un contexte qui peut favoriser encore plus, notamment des périodes de vulnérabilité. Par exemple, on évoquait le fait qu'à l'adolescence, c'est une période de vulnérabilité importante. Et dans ce contexte-là vont survenir des événements précipitants que les patients en général identifient assez bien, qui peuvent être soit des traumatismes ou bien des remarques qu'ils ont reçues de leur entourage ou bien du harcèlement ou encore des échecs personnels, par exemple dans les études ou dans leur réalisation personnelle.
Les boulimies, peut-être plus que les anorexies, sont-elles liées à des comorbidités ?
Alors effectivement, la boulimie est un trouble psychiatrique qui est très souvent associé à d'autres comorbidités psychiatriques. D'une manière générale, les troubles du comportement alimentaire sont souvent comorbides, mais surtout dans la boulimie, on observe beaucoup de troubles de type borderline, donc des difficultés dans la gestion des émotions, une grande labilité émotionnelle. Beaucoup d'addictions aussi, 30% de comorbidité entre la boulimie et l'addiction selon les études, et souvent aussi des troubles bipolaires.
Et les traitements qui peuvent être préconisés, aussi bien pour la prise en compte de la maladie que ses causes et ses conséquences.
Alors effectivement, il y a des voies de traitement médicamenteux, donc les traitements antidépresseurs, les traitements anxiolytiques et aussi les traitements qui visent à réguler l'humeur et les émotions. Mais il y a aussi tous les traitements non médicamenteux qui sont plutôt des médiations pour aider à la gestion des émotions, de l'impulsivité, comme par exemple la sophrologie. Et il est important que le patient puisse bénéficier d'un suivi psychologique ou psychiatrique et diététique et médical.
Oui, c'est ça, plusieurs personnes qui, voilà, peuvent aider cette personne.
C'est un suivi pluridisciplinaire qui est très important parce que chacun a sa place.
Docteur Ducharpoza, quelle est la durée moyenne d'une boulimie? Est-ce qu'on peut en guérir réellement? Et les rechutes sont-elles existantes?
Il est difficile d'estimer la durée moyenne de la boulimie. On peut en guérir effectivement, mais il existe aussi beaucoup de rechutes. Alors ce qu'on observe, c'est souvent une boulimie qui est plus ou moins présente au fur et à mesure de la vie. Il y a des périodes de vie où la personne va mieux, où sa situation personnelle est plus stable et donc la maladie peut s'effacer. Et puis en cas de perturbation, en cas d'événement de vie compliqué, elle peut ressurgir.
Vous êtes bien sur RCF et dans le cadre de l'émission Santé Plus, je reçois le docteur Ducharpoza, médecin généraliste au centre Jouvence Nutrition à Messigny-Ventoux, qui nous explique ce que sont les troubles du comportement alimentaire, particulièrement aujourd'hui la boulimie. Et nous allons passer maintenant à un autre trouble du comportement alimentaire, considéré aussi comme majeur, il s'agit de l'hyperphagie, qui est moins connue mais tout aussi présente. En quoi consiste-t-elle exactement ?
Alors l'hyperphagie consiste à la prise alimentaire en grande quantité comme pour la boulimie avec une sensation de perte de contrôle. Les patients mangent de manière très rapide pour remplir une sensation de vide intérieur et sans sensation de faim. À la différence de la boulimie, dans l'hyperphagie, il n'y a pas de technique de compensation des prises alimentaires, donc des calories, et donc les patients sont plus souvent en surpoids ou en obésité.
Et les jeunes, les malades qui souffrent d'hyperphagie, sont-ils aussi jeunes que ceux qui souffrent d'anorexie ou de boulimie ?
Alors, l'hyperphagie peut arriver un petit peu plus tard dans la vie par rapport à l'anorexie ou la boulimie. Ça peut aussi survenir à l'adolescence et chez l'adulte jeune, mais on observe une prévalence plus importante à partir de 40 ans environ.
Et quels sont les signes et les symptômes qui doivent alerter l'entourage? Est-ce qu'ils sont les mêmes que ceux justement liés à la boulimie et les causes sont-elles aussi identiques?
Alors, effectivement, les familles qui constatent ou les proches qui constatent que la personne mange en grande quantité au repas peuvent s'apercevoir qu'il y a un problème. Mais très souvent, dans l'hyperphagie, les prises alimentaires sont un petit peu cachées. La personne fait ça en dehors des repas ou bien quand elle est seule. Donc, c'est parfois difficile de l'identifier. Mais en général, comme il y a un surpoids ou une obésité qui s'y associe, c'est surtout la variation de poids qui peut alerter les proches. Alors il faut faire attention à bien distinguer obésité et hyperphagie. On estime que seulement 50% des personnes obèses souffriraient d'hyperphagie au sens pathologique, donc d'un trouble du comportement alimentaire. Une partie des personnes souffrant d'obésité n'ont pas forcément ce mode d'alimentation-là.
Elles ne sont pas forcément hyperphagiques.
Voilà, ça peut être lié à la sédentarité ou à une hygiène de vie qui n'est pas très rigoureuse, mais il n'y a pas forcément cette composante de crise compulsive.
Et les traitements sont-ils identiques pour la boulimie ? Là, c'est pareil, chaque médecin peut avoir son rôle.
Voilà, c'est très important, la pluridisciplinarité, c'est vraiment au centre de la prise en charge. Après, il faut faire attention avec ce type de patient à bien distinguer les prises en charge, on va dire, psychologiques et psychiatriques qui sont indispensables dans l'hyperphagie, d'une cure d'amaigrissement qui est réservée vraiment aux situations d'obésité, comme on en parlait juste avant, qui sont liées à une hygiène de vie qui n'est pas adaptée. Envoyer un patient souffrant d'hyperphagie dans un établissement qui fait des cures d'amaigrissement, c'est difficile pour lui parce que ça ne réglera pas le problème de fond, en fait.
Est-ce qu'on peut guérir de l'hyperphagie et quels sont les risques de rechute ? Même question que pour l'obésité.
Alors, c'est encore une fois difficile, ça peut durer plusieurs années. On peut en guérir et les rechutes sont un petit peu moins fréquentes que dans la boulimie.
Docteur Ducharpoza, vous exercez comme médecin généraliste à la clinique Jouvence Nutrition à Messigny-Ventoux. Pouvez-vous nous présenter cet établissement et l'accueil proposé justement aux personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire ?
Alors notre établissement est situé en périphérie de Dijon, à 10 minutes à peu près de Dijon, et nous accueillons des patients qui souffrent de tout type de troubles du comportement alimentaire, donc ceux dont on a parlé dans cette émission, mais aussi d'autres qui sont moins fréquents. Nous bénéficions d'un service d'hospitalisation complète qui accueille 40 patients et un service d'hôpital de jour où viennent à peu près 25 patients par jour. Donc en hôpital de jour, on a des patients qui viennent de toute la région Bourgogne-Franche-Comté et en hospitalisation complète, des personnes de la région, mais aussi d'autres patients de toute la France, puisqu'il y a très peu d'établissements en France qui ont ce mode de soins.
Et qui détermine la nécessité de l'hospitalisation complète et quelle peut être sa durée?
Alors, la nécessité de l'hospitalisation, elle peut se définir par la gravité. Quand il y a des variations de poids très importantes ou bien une dénutrition sévère ou des conduites de purge aussi qui peuvent mettre en danger le patient. Mais il n'y a pas forcément nécessité de gravité ou d'urgence. Nous pouvons accueillir des patients à partir du moment où ils ont conscience de leurs problèmes et qu'ils veulent se soigner. On peut les accueillir dans notre établissement. On observe une durée moyenne de séjour de 2 mois et demi. Alors, on dit, nous, au minimum 1 mois de séjour pour permettre d'obtenir quand même des résultats concrets et pour pouvoir investir le suivi, mais ça peut être parfois jusqu'à 6 ou 7 mois, ça peut être très long.
Et quelles sont les activités que vous pouvez proposer aux patients?
On a beaucoup d'activités qui sont alors soit des activités diététiques, des groupes d'éducation, de la cuisine. On a des ateliers plutôt corporels, de l'expression corporelle, de la psychomotricité, de l'éducation à l'activité physique adaptée. Et puis des ateliers qui sont plutôt créatifs ou sociaux, par exemple l'art-thérapie, les groupes de parole, la musicothérapie. Voilà.
Et quels sont les critères d'admission pour intégrer cet établissement?
Alors, avoir un trouble du comportement alimentaire, il n'y a pas beaucoup de critères d'admission. Il y a surtout quelques critères d'exclusion parce qu'on est un établissement c'est une petite clinique et qui ne bénéficie pas d'astreinte médicale. Donc, il ne faut pas que les patients soient en trop grande précarité somatique, médicale. Donc, d'un IMC, on va dire, de 13,5, on peut accueillir les personnes.
Voilà, et puis il suffit que le médecin traitant puisse aussi
C'est le médecin traitant qui nous l'adresse. Alors nous, on demande à ce qu'il n'y ait pas d'addiction non sevrée d'idées suicidaires pour que le patient puisse être pleinement disponible pour son travail dans notre établissement. Donc préalablement, s'il y a besoin de faire une cure de sevrage.
Voilà. Docteur Ducher-Posa, nous arrivons à la fin de nos deux émissions. Je vous remercie pour vos explications aussi complètes que possible. Je rappelle que si vous souhaitez des informations complémentaires justement sur ce centre de nutrition à Messigny-Ventoux, vous pouvez vous rendre sur le site Clinique Jouvence Nutrition ou inicea.fr. Donc, à nouveau, mes remerciements pour vos explications. Ce trouble du comportement alimentaire qui est la représentation d'une grande souffrance pour les malades et qui est aussi une immense désolation pour les proches.